7h42 en temps universel. RFI Matin, suite F1, un nouveau journal dans moins de 20 minutes et l'ordre d'incarcérer Ekrem İmamoğlu donné ce matin par un juge. L'arrestation du maire d'Istanbul, rival de Recep Tayyip Erdogan, contesté à nouveau dans la rue hier soir en Turquie. On fait le point sur les dernières informations avec Anand Lauer sur place tout à l'heure. À suivre d'ici là notamment l'Afrique en marche et un cartable solaire pour éclairer les écoliers à la nuit tombée et l'heure des devoirs. Mais tout de suite les sports. Avec vous Antoine Grenier, en football, début ce dimanche de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde avec deux rencontres au programme.
Coup d'envoi 13h, temps universel dans le groupe D, match de la survie entre l'Iswatini, dernier avec un point, et l'île Maurice, 5e avec 4 unités. À la même heure dans la poule F, le Gabon, 2e avec 12 points, va affronter le Kenya, 4e à 6 longueurs.
Hier, la 5e journée s'est conclue sur deux matchs nuls qui n'arrangent personne.
Entre le Togo et la Mauritanie d'abord, des éperviers accrochés à domicile et sauvés par l'égalisation de Kenan Dinké à 20 minutes de la fin. Score final de partout pour deux équipes décrochées dans le groupe B et le milieu de terrain mauritanien Guessouma Fofana paraît fataliste.
L'équipe du Togo a très bien commencé, a mis beaucoup de pression, donc il a fallu s'adapter à cette pression-là. Et en seconde période, on arrive un peu plus frais, on a pu se créer beaucoup d'occasions et on aurait pu, je pense, l'emporter ce soir.
Est-ce qu'au cours du match, vous avez douté à un moment donné, juste après le but togolais?
Douter jamais, parce qu'on savait que c'était un match ouvert. Et avant le but, on s'est aussi procuré des occasions. Donc on savait qu'on allait en avoir dans le match. Donc voilà, on s'est dit qu'on va garder notre ligne directrice, c'est ce qu'on a fait. Et puis on a pu marquer ces deux buts qui nous ont fait prendre l'avantage. Puis après, voilà, sur des petits trucs, ils sont revenus au score. Comme je vous ai dit, c'est un match ouvert. Et le nul, on va s'en contenter, même si ça ne satisfait pas.
Guessouma Fofana avec Comelan et Clou. La Mauritanie avant-dernière au classement avec deux petits points. Le Togo est juste devant avec quatre unités. Dans le groupe B, mauvaise affaire du Sénégal. Les Lions tenus en échec au Soudan. 0-0 frustrant pour les hommes de Pape Thiaw qui se retrouvent au troisième rang derrière les Soudanais et la RDC.
Le Sénégal également à la une de l'actualité olympique.
En marge de l'élection de la Zimbabwéenne Kirsty Coventry à la tête du comité international olympique, Ibrahim Awad, le coordinateur général des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, a fait le point sur les avancées du projet. Près de 3000 athlètes jusqu'à 17 ans seront attendus au Sénégal dans un peu plus de 18 mois. Côté infrastructure, l'ancien spécialiste du 400 mètres se veut rassurant. La plupart des sites sont déjà construits et seront prêts à temps.
Nous serons au rendez-vous, je le confirme ici, comme nous l'avons confirmé avec le président du COJOJ, le président Mamadou Diagne Ndiaye, devant la session et devant la commission exécutive. Le projet de Dakar a beaucoup misé sur les infrastructures existantes, particulièrement au niveau de Diamniadio, où tout est pratiquement prêt, à l'exception de la carrière d'équitation sur laquelle la gendarmerie nationale, qui est un peu le gardien plus ou moins de l'équitation sénégalaise, est en train de travailler. Les constructions avancent très bien. Nous avons deux autres projets d'aménagement que sont le stade Ibamar Diop et la piscine olympique. Et grâce à un soutien important de la France à travers l'Agence française de développement, près de l'État du Sénégal, les travaux ont été engagés, largement avancés. En tout cas, nous attendons la livraison de ces infrastructures à la fin de l'année 2025 ou plutôt au début de l'année 2026.
Ibrahim Awad, le coordinateur général des prochains Jeux Olympiques de la Jeunesse, les JOJ Dakar 2026 qui sont programmés du 30 octobre au 16 novembre 2026 évidemment.
RFI y sera bien sûr. Et Antoine, on termine avec le tennis. 11 Jabeur abandonne au troisième tour à Miami.
La Tunisienne 30e mondiale opposée à l'Italienne Jasmine Paolini, 7e à la WTA. Jabeur gêné par son mollet a jeté l'éponge alors qu'elle était menée 4 jeux à 3 dans la première manche. Cruelle désillusion pour la finaliste de Grand Chelem qui avait renoué avec le succès après deux défaites au premier tour à Dubaï et Indian Wells.
Antoine Grenier pour les sports. Merci beaucoup. Bon dimanche.
RFI Matin.
Et après la journée mondiale des glaciers, vendredi, c'était hier la journée mondiale de l'eau. Deux événements qui ne se succèdent pas par hasard. Deux conséquences du réchauffement climatique intimement liées, alors que la fonte des glaciers menace notamment l'accès à l'eau douce de 2 milliards d'humains, au moins dans un monde où la moitié de la population est déjà confrontée à des pénuries d'eau au moins un mois chaque année. Des difficultés qui ne cessent de croître et occasionnent des tensions, des conflits. C'est à ces tensions hydriques qu'on s'intéresse aujourd'hui dans notre tour du monde des correspondants. Première étape en Asie, le long du fleuve Brahmapoutre qui traverse la Chine, l'Inde et le Bangladesh. Les autorités de Pékin ont lancé plusieurs projets de barrages en amont, aux grandes dames en aval de ces deux autres pays pour lesquels le Brahmapoutre est non seulement sacré mais surtout crucial pour l'approvisionnement en eau, Léa Ojal.
Le Brahmapoutre représente plus de 30% des ressources en eau de l'Inde et 94% de celles du Bangladesh. 625 millions de personnes vivent dans son bassin, dont 80% sont des agriculteurs. Ce fleuve transfrontalier dont les ressources sont cruciales pour ces pays est source de tensions. La Chine a construit plusieurs barrages sur le cours supérieur du Brahmapoutre. L'Inde et le Bangladesh voient ces constructions comme une menace de la part de Pékin. Les autorités redoutent en effet que la Chine utilise l'eau comme une arme politique. New Delhi craint une nouvelle dépendance vis-à-vis de la Chine. En réponse, l'Inde envisage également de construire un barrage sur le Brahmapoutre. Il devrait augmenter la capacité de stockage d'eau du pays. L'objectif, limiter l'impact du géant chinois.
Léa Ojal à New Delhi, plusieurs pays pour un seul fleuve et des tensions. C'est aussi le cas du Mexique et des États-Unis qui partagent trois fleuves dont deux sont particulièrement importants, le Rio Colorado et le Rio Grande qui prennent leur source dans les montagnes rocheuses. Un accord de répartition existe bel et bien, mais avec le réchauffement climatique, les neiges diminuent et avec elles le débit des fleuves. La quantité d'eau qui parvient au Mexique est de plus en plus faible, Gwendolina Duval.
À tel point que le Rio Colorado, censé se jeter dans la mer de Cortés, ne l'atteint plus, ou alors très exceptionnellement, et ce depuis des années. Cela a évidemment des conséquences sur les populations. 40 millions de personnes dépendent de ce fleuve sur plus de 2300 km. À la fin de la course, côté mexicain, Tijuana est en crise et la communauté indigène de pêcheurs des Cucapas qui vit à l'embouchure se retrouve en plein désert. L'accord qui définit la répartition de l'eau entre les deux pays date de 1944. La quantité d'eau qui arrive jusqu'au Mexique est redéfinie chaque année à la baisse, moins 18% pour 2025. Le Mexique reproche aux villes américaines comme Las Vegas et surtout à l'agriculture intensive pratiquée notamment en Californie de s'accaparer la ressource. C'est à peu près le même problème pour le Rio Grande qui longe la frontière jusqu'au golfe du Mexique et qui souffre de surexploitation depuis des décennies. Dans ce cas-là, ce sont les États-Unis qui mettent la pression sur le Mexique, le Texas surtout, pour obtenir plus d'eau. Avec le nouveau gouvernement américain et la fin des financements des programmes environnementaux décrétés par Donald Trump, les tensions sont encore plus vives.
Gwendolina Duval au Mexique et cap à présent sur le continent africain et le lac Tchad, au cœur du Sahel, dans l'ouest du Tchad, et à la frontière entre le Cameroun, le Niger et le Nigeria, cette oasis d'eau douce alimentée par deux rivières, le Chari et le Logon, fait vivre et travailler 49 millions de personnes. Pas de sécheresse ici, bien au contraire. En décembre dernier, le lac était en crue et atteignait une superficie inédite en plus de 60 ans. Depuis les années 90, les pluies au Sahel central ont augmenté et d'autant plus depuis 2015 avec le réchauffement climatique, Nadia Ben Mahfoud.
Avec plus de pluie, l'écosystème fonctionne mieux et les zones faciles à mettre en culture en tirent des bénéfices. La végétation du lac augmente également, des typhas, des sortes de roseaux poussent en abondance et pourraient être travaillés pour en faire du bois de chauffage par exemple, mais n'étant pas exploités, cette végétation entrave les déplacements sur le lac et rend donc la pêche et le commerce plus difficiles. Par ailleurs, la zone étant dans une topographie très plane, l'augmentation de la superficie du lac provoque des inondations et contraint aussi les populations à s'installer plus loin, en particulier sur la cuvette nord du lac où ils se retrouvent directement dans le sable. Sans terre facilement cultivable, ses habitants se tournent donc vers de nouvelles activités. Ils coupent des arbres pour un usage domestique ou commercial et accélèrent donc l'ensablement du lac. Paradoxalement, cette augmentation de l'eau dans le lac Tchad a aussi des effets négatifs. Selon les chercheurs, une maîtrise des infrastructures qui entourent le lac Tchad est primordiale pour permettre la mise en place d'un développement agropastoral régional conséquent.
Nadia Ben Mahfoud à N'Djamena et puis toujours en Afrique mais plus à l'est, direction l'Égypte. L'Égypte qui est le don du Nil, disait autrefois le géographe grec Hérodote. Mais 25 siècles plus tard, ce pourrait être bientôt de l'histoire ancienne, en tout cas selon les Égyptiens. Le débit du fleuve était menacé, disent-ils, par le grand barrage éthiopien sur le Nil bleu, Alexandre Bouchianti.
L'Éthiopie est à l'origine de 80% des eaux du Nil parvenant à l'Égypte. Des eaux qui culminent avec la crue annuelle, qui, selon la mythologie pharaonique, est constituée des larmes de la déesse Isis pleurant la mort de son époux Osiris. Une baisse du débit serait catastrophique pour une Égypte bien en dessous du seuil de pauvreté hydrique. L'Égypte dispose de 60 milliards de mètres cubes d'eau par an, à 95% du Nil pour 107 millions d'Égyptiens plus 8 millions de réfugiés soudanais, syriens, libyens, yéménites, etc. Pour tenter de combler le déficit, on recycle 20 milliards de mètres cubes d'eau, un chiffre qu'il faudra doubler ainsi que décupler celui du dessalement, un miracle qui pourrait être réalisé grâce au dieu Ra. le disque solaire et son énergie, plus sans doute un peu de nucléaire.
Alexandre Bucianti au Caire est notre tour du monde des correspondants à retrouver sur RFI.fr. 8h52 à Paris.
RFI à Lomé, 91.5 FM.
Et dans l'Afrique en marche aujourd'hui, cap sur le Togo avec aujourd'hui des cartables scolaires et solaires. L'association We Are the New Africa, nous sommes la nouvelle Afrique, a décidé de fabriquer et de distribuer aux élèves des écoles primaires de plusieurs villages des sacs qui leur permettent à la fois de transporter livres et cahiers et de continuer à lire et écrire chez eux à la nuit tombée à la lueur de leur cartable. Frédéric Gara.
Applaudissements enthousiastes et distribution de cartables solaires dans une école en banlieue de Lomé. Des cartables dont le concepteur, Akbar, explique aux enfants le fonctionnement. Un sac scolaire muni d'un mini-capteur solaire, d'une lampe et d'un interrupteur. Une idée qui a germé dans l'esprit de cet artiste styliste il y a 6 ans, alors qu'il fabriquait de simples sacoches pour les manuels et les trousses des élèves. Akbar, créateur et responsable de l'association We Are the New Africa.
Je faisais juste des sacs parce que j'avais suivi un reportage dans une localité où les élèves avaient des difficultés à avoir des sacs, donc ils prenaient des sacs plastiques. Et lorsque je me suis rendu 2-3 fois dans un village, il y avait la problématique également du manque d'électricité dans la plupart des régions où je distribuais les sacs. Et donc j'ai eu cette idée. Après, je suis allé sur Internet, j'ai regardé un peu et j'ai pu réussir à faire un sac et à y incorporer un système d'éclairage LED à énergie solaire. Des sacs où, sur lesquels on met des plaques, des capteurs solaires, un interrupteur, et à l'intérieur, il y a une batterie. Et donc, en journée, lorsque l'élève va à l'école, le sac est exposé au soleil naturellement. Pendant les récréations, les capteurs captent le rayon du soleil pour alimenter la batterie intérieure. Et le soir, l'élève a une source de lumière pour étudier au moins pendant 2 à 3 heures de temps.
3 heures de lecture supplémentaire qui n'ont peut-être l'air de rien, mais depuis 6 ans que ces sacs sont fabriqués et distribués gratuitement, cela produit son petit effet. Les professeurs des écoles constatent en effet une nette amélioration de la progression scolaire des élèves.
Voilà, c'est exactement ça, c'est ce qui moi personnellement me motive, parce que dans la plupart des villages où nous sommes passés, où nous avons fait les opérations, les professeurs ont témoigné. Même dernièrement dans une école, bon, nous on fait souvent les... c'est comme un peu une sorte de compétition, les élèves disent il y a 100% à tel examen, 98%, et donc on était allé dans un village où il n'y a jamais eu 100%, mais parce qu'il y avait la source de lumière, et que en plus pour les enfants c'est ludique de s'amuser avec le sac, d'avoir la lumière et tout, et donc ils s'intéressent quand même au cours, ils font des révisions, et on nous a fait un retour, un témoignage comme quoi il y a eu 100%, et après toutes les années où le niveau scolaire a augmenté considérablement, quoi. C'était un fait et c'est aussi surtout ça qui nous motive à continuer.
Ce travail bénévole de fabrication et de distribution de cartables solaires se fait grâce à l'association d'Akbar et à l'appui financier d'une ONG en France, Educadev. L'un de ses membres togolais a mis en contact Akbar avec l'un des responsables d'Educadev, Jean-Luc Collin.
En rentrant en France, il m'a dit « il faut que tu contactes Akbar, ce type est formidable ». Et la suite l'a prouvé, puisque c'est un monsieur extrêmement actif, il nous a fait un budget, et on l'a suivi déjà plusieurs fois depuis 2019. On en est à la 4e ou 5e session de fabrication de ces cartables de lumière. On a surtout un grand sentiment de fierté de ces élèves qui, du coup, disposent en plus d'un mode de transport assez solide et fiable pour trimballer leurs affaires.
Depuis 6 ans, 100 à 200 sacs de lumière sont fabriqués et distribués chaque année dans les classes de villages comme Kebotoé ou Avedje. Le but d'Akbar et de son association est bien sûr de permettre la production plus importante de sacs pour que chaque élève du Togo manquant de lumière dans son foyer puisse malgré tout progresser dans ses études.
Voilà un puits de lumière et de science, les cartables scolaires et solaires de l'association We Are the New Africa, que vous pouvez d'ailleurs financer si vous le pouvez. Vous retrouvez le lien vers la collecte de l'ONG Educadev sur le site de RFI à la rubrique L'Afrique en marche. Et bientôt 8h en temps universel, RFI matin. C'est presque fini pour aujourd'hui. On se quitte en musique, comme chaque jour, avec le groupe Arat Kilo, héritier de l'éthio-jazz, genre musical pionnier d'Éthiopie. Ils unissent leurs forces avec la diva malienne Mamani Keita sur le titre Nbendia.
Hey Mamani, you alright?
Hey Mike, Kobedi, Nbendia, Arat Kilo, oh. on est à l'aise.
Benia, Benia la foro a sanuda ne Benia.
Back like a Commodore, keep it easy like a Sunday morn. Fairy girls, red pompadour. When I chill offshore. I sleep eight despite the war. That way I can fight some more. Fight for peace, keeps out my pores. I put in work before the storm.
Sonorité éthiopienne et 70s de Arat Kilo, la diva malienne Mamani Keita et le slammer Mike Ladd de Boston. Dans le titre Nbendia, c'est dans la sélection du mois d'RFI que vous retrouvez bien sûr sur musique.rfi.fr. Et voilà, RFI Matin se termine pour aujourd'hui. Je remercie Jean-Pierre Pellon à la réalisation de ces 3 heures. Très bonne journée, très bon dimanche à l'écoute de la Radio du Monde.
Le goût du monde, Clémence de Navy.
Il est dit qu'à Norouze, les maisons sont transformées en jardins de blé et de lentilles germées. La nature vibre, le sumac, son acidité mêlée à la légèreté du riz, des herbes partout comme une plongée dans un plat de printemps. Et la lumière, Norouze à la table d'une femme chef et de sa famille, tout à l'heure à 11h30 en temps universel.
Le goût du monde, Clémence de Navy sur RFI.